au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir d'accueillir Jean-Claude Millet qui vient de faire paraître aux éditions Publibook son ouvrage « Marquons notre temps, joie et tribulation d'un créateur d'entreprise ». Propos d'innovateur, on voit avec le titre parfaitement de quoi il s'agit. Jean-Claude Millet, très heureux de vous recevoir sur cette antenne.
Bonjour.
Nous allons donc, si vous voulez bien, détailler et revenir sur le cœur de votre sujet, c'est-à-dire votre expérience de chef d'entreprise, ce que vous en avez tiré, les enseignements, les joies, les grandeurs, les misères, ce que vous décrivez parfaitement dans votre ouvrage. Je voudrais simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donner quelques indications sur votre parcours que vous allez certainement m'aider à compléter. Vous êtes d'une formation d'ingénieur, vous avez travaillé dans un grand groupe national ou international, Thomson, international pendant 10 ans. Puis vous avez continué votre formation par un troisième cycle en administration des entreprises, qui est extrêmement précieux. Et vous avez créé en 1982 l'entreprise Image, avec un J, I-M-A-J-E, dans lequel vous avez occupé les fonctions de dirigeant, de patron, jusqu'en 1993, date à laquelle vous êtes allé vers d'autres horizons. Vous avez pu exprimer tout votre dynamisme. Vous êtes membre de l'Académie des technologies. Et vous avez animé pendant 9 ans l'association Habitat et Humanisme, Drôme Ardèche. Enfin, vous avez été également administrateur de l'ANVAR. Donc chacun connaît l'ANVAR, donc c'est l'agence de l'innovation. Et du CFCE, c'est-à-dire...
Le Centre français du commerce extérieur.
Voilà, parfait. Donc vous êtes parfaitement donc ancré dans le domaine des entreprises internationales, etc. Donc, voilà pour la présentation. On en vient maintenant à votre expérience de chef d'entreprise hein, que vous relatez dans votre ouvrage. Et donc, après un certain nombre d'aventures dans le monde du salariat, oui. La grande entreprise, on sait que ça se termine toujours par des restructurations et puis par généralement des aides au départ. Ça arrive souvent dans un parcours de dirigeant. Vous créez avec quelques-uns de vos amis une équipe de 5 personnes, si mes souvenirs sont bons.
Oui, un qui a commencé le premier jour, les autres ont rejoint après.
D'accord.
Mais 5 au niveau actionnariat.
D'accord. Et certains, d'ailleurs, en utilisant leurs indemnités de chômage pour pouvoir...
Alors, c'est moi qui ai utilisé mon indemnité de chômage et qui a été, en fait, l'essentiel de la dotation en capital de la création de l'entreprise.
Ouais. Ce qui veut dire que vous en aviez envie, hein.
Oui, c'est vrai, mais les fondements de la décision étaient en effet très très forts.
D'accord. Alors, c'était quoi les fondements de la décision ?
Alors, c'était le résultat d'une analyse entre toutes les choses que j'aimais et que je pourrais faire. Et finalement, là, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres options.
Ouais.
Mais ce qui a fait déborder le vase, disons la goutte qui a fait déborder le vase, c'est un prêche d'un prêtre de la paroisse de Bourg-lès-Valence. Nous assistions à ses offices de temps en temps le samedi soir. Et le 21 novembre, il commentait la parabole des talents. Et en sortant, je dis, bon, je fais le bilan de mes talents. Une manière de ne pas les enterrer, c'est de prendre la décision, de prendre le risque de créer l'entreprise. Et elle s'est fondée dans les minutes qui ont suivi la sortie de cet office.
Alors, il faut déjà rappeler dans quel secteur vous avez donc commencé à innover. C'est donc dans le secteur de l'imprimerie...
Des imprimantes à jet d'encre.
Des imprimantes à jet d'encre. Vous avez commencé dans un tout petit local.
Alors, un local de 32 mètres carrés, quasiment conforme au mythe de la création d'entreprise. Ce n'était pas un garage, mais c'était un magasin de chauffage.
Donc, c'est à l'image de la Silicon Valley.
Voilà.
Inspiré d'ailleurs un peu de ce qui s'est passé en Silicon Valley. Je crois que vous êtes allé voir comment les choses se passaient. Ou c'est a posteriori peut-être.
Non, simplement, ma fonction dans l'entreprise dans laquelle j'étais était une fonction tournée vers la diversification. Et oui. J'avais proposé le GEDANC comme une diversification pour le groupe. Et à ce titre, j'avais fait un périple en Angleterre et aux États-Unis, là où les prémices du jet d'encre se présentaient.
D'accord. Au point de vue technique, pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas très, très avertis, c'est quoi le grand pas technologique entre l'imprimante classique et l'imprimante à jet d'encre ?
Alors, d'abord, il y a deux catégories d'imprimantes à jet d'encre. Les imprimantes à jet d'encre de bureau que beaucoup de gens, presque tout le monde a aujourd'hui, oui. Avec des technologies de diverses, et dont le point commun est qu'elles sont dites gouttes à la demande. C'est-à-dire que chaque goutte est utilisée pour écrire un point. Alors que dans le domaine industriel, on utilise des imprimantes qui sont dites à jet continu, c'est-à-dire on fabrique un très très grand nombre de gouttes, et on n'utilise que quelques-unes de ces gouttes pour écrire à la volée sur les objets. Je dis un grand nombre de gouttes, c'est entre 75 000 et 100 000 gouttes par seconde. D'accord. Et on doit piloter individuellement ces gouttes pour arriver, au terme d'une balistique un peu sophistiquée, à écrire des caractères ou des symboles sur des objets qui peuvent défiler jusqu'à 7 mètres par seconde au-dessous de la tête de l'imprimante.
Oui, ce que vous dites là, c'est que ça nous paraît naturel, banal, alors qu'en fait, on est passé de l'âge de pierre à cette technologie.
Il y a eu un saut technologique considérable au moment où il a fallu passer de dispositifs de marquage qui utilisaient des éléments de marquage fixes à une technique de marquage flexible. Et la technique de marquage flexible et rapide, s'imposait par le fait que dans les années 80, les chaînes de conditionnement, la vitesse de conditionnement augmentait de manière très considérable et le nombre de produits emballés augmentait de manière considérable. Donc c'était le début d'un marché.
D'accord. Donc en fait, sur ce marché, vous n'avez pas été le créateur de la technique, vous avez été celui qui l'a su comprendre que c'était révolutionnaire et que vous l'avez distribué. D'abord en France, je suppose.
En fait, il y avait une entreprise américaine qui exploitait le brevet d'un professeur américain. Et il y avait eu, 4 ans auparavant, la création d'une entreprise anglaise qui avait pris déjà pas mal de place. Et ce que nous avions observé, c'est que les brevets étaient très proches de tomber dans le domaine public et que nous pouvions en faire une interprétation très, très intelligente, très avancée. Et on a mis de l'innovation sur un principe qui devenait public.
D'accord, très bien. Alors, c'est la belle période de l'histoire. Vous progressez.
Croissance
incroyable. Alors, au point de vue, on va dire, du chiffre d'affaires, mais aussi au point de vue géographique, si j'ai bien compris, vous devenez international aussi.
Alors, en fait, dès l'instant où on a pu avoir une fiabilité suffisante pour les produits, on a commencé à les exporter par des distributeurs. Et puis en 1986, on a franchi le pas de la création d'entreprise et à la suite d'une augmentation de capital dans laquelle on a fait rentrer des financiers en haut de bilan avec pour objectif principal la création de ces filiales. Et en 1986, on a créé 12 filiales dans le monde, dans les pays principaux.
Donc 4 ans après simplement votre création. Donc vous avez eu
entre 86 et 87, on a commencé à créer ces filiales.
Très 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 rapidement. Donc là vous étiez une sorte de start-up.
Oui, on était une success story de l'époque. Et l'exercice auquel je me livre aujourd'hui, je m'y livrais au moins une fois par mois dans des conférences partout pour expliquer comment se fait-il que vous arriviez à ça.
Et là, lorsqu'on est au cœur de cette aventure, le chef d'entreprise, le créateur, l'innovateur, on arrive à garder ses nerfs, sa tête, on reste lucide ou on est emporté par une sorte de tourbillon du succès où on ne voit plus.
Non, je n'étais pas du tout emporté. J'explique dans le livre qu'il faut consacrer autant d'énergie de retrait à de l'énergie de conquête. Dans le cas contraire, on risque de se confondre avec l'œuvre et à ce moment-là, on disparaît. Et le jour où l'œuvre disparaît, ce qui va naturellement se produire au moment où je vais quitter l'entreprise, sans avoir pris cette position de retrait, je serai moi-même disparu.
Oui, absolument. Donc, effectivement, le succès d'une entreprise, sa prospérité, son entrée en bourse sont en règle générale présentées comme une belle histoire. Mais souvent, on passe sous silence. Donc, le deuxième point sur lequel nous allons arriver, les tribulations, les difficultés relationnelles, internes ou externes, avec les partenaires, les parties prenantes de l'entreprise. Alors, parfait, donc tout se passe bien, vous devenez une entreprise internationale, prospère, vous entrez en bourse, je pense.
Non, on n'est pas rentré en bourse.
Ça a été un RES.
Non, simplement, on était fondateur, donc propriétaire de l'entreprise, donc on n'avait pas à la racheter. Simplement, il faut signaler que dans l'exercice, nous nous étions fixés comme objectif à la fois d'être une entreprise innovante sur le plan technologique et performante, dont on vient de parler, de commencer à donner les prémices, mais en même temps d'être une entreprise innovante sur le plan social. Ceci, on l'avait écrit à la création, mais sans avoir développé le moindre concept. C'est-à-dire, le seul concept, c'était de dire, on ne veut pas une organisation de même type que le groupe, le grand groupe duquel nous venons.
D'accord, nous sortons meurtris. Voilà. Nous sortons meurtris.
Meurtri, mais comment dire, sans espace d'accomplissement personnel au-delà du succès technique ou financier.
Donc vous avez voulu innover aussi sur l'humain et vous avez fait une sorte de charte d'éthique, de déontologie. Vous avez écrit quelques lignes sur le sujet.
Mais voilà, à partir de 85 et à partir du moment où, en même temps, on entreprenait cette démarche internationale, ce qui voulait dire que l'enjeu, c'était non seulement d'arriver à une forme d'éducation collective à l'usage de la confiance, l'usage du partage, des notions qui ne sont pas toujours valorisées dans l'entreprise, mais il fallait aussi que l'on développe ça dans un cadre international, c'est-à-dire en face de pensées anglo-saxonnes pures.
Tout à fait.
Et ça a été un très bel exercice.
Et c'est donc une forme pour conserver votre identité.
Voilà,
c'était initiale de vous regrouper sur l'identité. Alors, tout ça, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est mis à ne plus marcher?
Pour simplifier, il y a eu deux grains de sable. Le premier grain de sable, c'est qu'avec l'augmentation de capital, notre objectif, c'était dans les 3 ans de créer les filiales, comme je l'ai indiqué, et également de sortir une deuxième génération de produits révolutionnaires au lieu de 60 kilos, 9 kilos.
D'accord.
Quelque chose qui s'apparentait plus à un cœur artificiel qu'un camion, par exemple. Là, on a pris du retard dans ce développement. Donc, ça nous a coûté un petit peu plus cher. Et puis, il y a eu la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe a déclenché une atonie de l'économie mondiale dont beaucoup ne se sont pas relevés. Et notre plan de développement était basé encore à ce moment-là sur une croissance annuelle de 40%. Et les 6 premiers mois de l'année 1991, on n'a pas vu la crise parce qu'il y a eu une procédure européenne qui obligeait tous les fabricants de vin à marquer leurs bouteilles.
Et comme quoi, c'est ce qu'on appelle les effets d'aubaine, alors.
Il y a eu un effet conjoncturel par-dessus la conjoncture.
D'accord.
Et alors que tout le monde souffrait, nous, on est restés... On a pris plus de la moitié des 600 machines à vendre en France. Ensuite, l'Italie et l'Espagne ont pris le relais sur le troisième trimestre. Et d'un seul coup, au dernier trimestre, cet effet de disparaissant, on est tombé de 40% à 10% de rythme de croissance. Et donc, naturellement, on avait pas mal emprunté en obligations convertibles. Et là, nos partenaires financiers ont commencé à prendre peur. Et ce mot magique qu'est la confiance a commencé à se déliter. Et on est rentré dans un processus n'avait comme issue possible, puisque je ne basais ma présence dans cette entreprise que sur la confiance, n'ayant jamais été, n'ayant jamais voulu être actionnaire majoritaire. On est rentré dans un processus où mon départ devait s'organiser.
Oui, donc vous n'avez jamais voulu être actionnaire majoritaire?
Non,
parce que c'est le cœur même de votre pensée, de votre management, ou c'était plutôt les contraintes du moment?
Pas du tout. C'était en partie les contraintes, puisque j'ai dit, on a eu beaucoup de peine à réunir les 475 000 francs dont on a eu besoin pour démarrer. Je pense qu'on l'indiquera, mais la sortie s'est faite à plus d'un milliard.
Tout à fait.
Plus d'un milliard de francs. Donc, dans ces 475 000 francs, on a vraiment fait les fonds de tiroir, quoi, mon indemnité de licenciement. Et donc, il y avait une raison qui faisait que je n'étais pas majoritaire qui était cela. Et puis, il y avait aussi cette idée qu'on allait faire une équipe... on est de la génération de 60, de 68.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et, on vivait, comme je le dis beaucoup dans le livre, avec des idéaux de transformation du monde.
Mais c'est vrai, il faut un peu d'utopie.
Voilà.
Alors, bon, donc, écoutez, on est, chers auditeurs, en train de recevoir Jean-Claude Millet pour son ouvrage « Marquons notre temps », paru chez Publibook. 26 euros, 320 pages. Et nous venons de voir donc la première partie de cette belle histoire qui l'a conduit à créer Images. Nous allons revenir dans quelques instants sur la suite de cette histoire.
Sur Canal Academy, Jacqueline de Romilly dévoile son amour pour l'écriture et pour la Grèce. Elle est venue parler de son livre « Le sourire innombrable » et de sa traduction de l'historien grec Thucydide. Écoutez également nos chroniqueurs littéraires parcourir ses livres et commenter les œuvres de cet illustre écrivain, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Alors, cher Jean-Claude Millet, nous vous retrouvons sur notre antenne pour votre ouvrage « Marquons notre temps », sorti chez Publibook, 26 euros, 320 pages. Et nous allons maintenant, pour terminer cet entretien, le temps passe extrêmement vite, peut-être en venir sur les leçons que vous tirez de cette expérience. Peut-être avant, nous dire quels sont les enseignements relationnels que vous tirez dans le cadre de l'exercice de métier de dirigeant d'entreprise, les parties prenantes, les salariés d'un côté, les banquiers de l'autre, les fournisseurs, vous en dites quoi ?
Alors, en ce qui concerne les fournisseurs et les clients, rien de spécial à dire. C'est là une philosophie qui était à l'origine et qui ne m'a pas quitté. On doit faire des objets qui rendent service, qui ont un contenu technologique, qui ont du sens parce qu'ils servent à quelque chose. Et donc, on n'a pas failli à cela. En ce qui concerne les relations sur le plan financier, je ferai une grande distinction entre... Et ceci à l'usage des entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs qui pourraient écouter l'émission, entre le bas de bilan et le haut de bilan. Il est très très probable que les partenaires principaux aient manqué d'un peu de sérénité. Je pense qu'ils auraient gagné beaucoup beaucoup plus d'argent si on avait continué. L'entreprise a été vendue 1 milliard de francs en 1995. Et 2 ans après, elle faisait 200 millions de francs de résultats nets. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un gros PER là-derrière pour se rendre compte que l'acquéreur a fait une affaire extraordinaire.
D'accord.
En ce qui concerne le personnel...
Et leurs représentants, hein, c'était aussi sur le terrain.
Et les représentants du personnel.
Ouais, c'est-à-dire les représentants du personnel, les syndicats,
oui,
etc.
Alors, en ce qui concerne... il faudra que je parle de l'État aussi.
Oui, tout à fait.
En ce qui concerne les syndicats, on a vécu pendant toute la période, pendant les heures glorieuses, dans un partenariat extraordinaire avec la CFDT.
D'accord.
Qui est allé très très au-delà de ce qui pouvait être fait sur le plan national, qui a montré de l'autonomie par rapport la culture, par rapport à la culture générale. Et le syndicalisme s'est diversifié seulement tout à fait à la fin, et je ne peux pas en tirer, je ne peux pas tirer de conclusion à ce sujet.
Alors, l'État.
Pour finir sur le personnel, le travail de formation du personnel à la compréhension du fonctionnement de l'entreprise est un travail indispensable. Et lorsque, comme ça a été le cas, on recrute une personne tous les jours et demi, on se trouve confronté à une très très grande difficulté pour permettent le développement de l'esprit d'entreprise. On a une dilution naturelle.
C'est ça, la culture change tous les jours, quoi.
Elle se trouve diluée dans la culture de masse d'ensemble et on remplace les discours projets par les conversations de machine à café.
Alors l'État.
En ce qui concerne l'État, la direction du travail a eu une position formidable, c'est-à-dire on faisait des choses qui étaient vraiment à la marge du droit du travail, mais on invitait le premier conseil d'entreprise, puisqu'on avait à la fois les délégués du personnel, les représentants au comité d'entreprise, ensemble dans la même institution. Les comités d'entreprise pouvaient se tenir en séance publique. Et le premier que l'on a tenu comme ça, on a invité le directeur du travail et on le tenait informé au jour le jour. S'il avait voulu dire niette, il aurait dit niette. D'ailleurs, je vais lui envoyer le livre la semaine prochaine. J'ai retrouvé son adresse.
C'était un partenaire positif ou
c'était très positif. Très positif, c'est-à-dire il a laissé se dérouler des expériences sociales sur les systèmes d'évaluation, sur les modes de rémunération.
Vous aviez
en
des
n'étant
bonus.
Pas une entrave.
Vous n'aviez pas de bonus dans votre...
Alors, on utilisait tout ce que la loi autorisait à l'époque au niveau des mécanismes. Et je donne quelques chiffres dans le livre qui montrent qu'il y avait véritablement un partage et qui ne portait pas que sur les bonus des dirigeants. Il n'y avait pas de bonus pour les patrons. Non.
D'accord. Parce que lorsqu'en fait, finalement, c'est la conclusion, l'entreprise est cédée. Oui. Donc, le gâteau, en quelque sorte, est partagé entre les principaux actionnaires, mais dont les salariés.
Alors, il y avait à peu près 230 actionnaires.
C'est-à-dire que tous les salariés étaient actionnaires ou pas ?
Avaient pu l'être à un moment donné. Et la secrétaire de Hong Kong était actionnaire. Et au moment de la cession, c'est un élément très important à comprendre sur le plan économique. Il y a eu un ordre de grandeur de 200 millions de francs. Donc, il faudrait le convertir en euros, qui se sont...
30 millions d'euros, quoi, en gros.
Voilà, qui se sont déversés dans l'économie locale et qui correspondaient au pactole du technicien de la première heure, de l'ingénieur de ci, de ça, et qui se sont déversés dans l'économie locale. Et comme la cession au groupe américain n'a pas conduit à des diminutions d'emplois, puisque nous avions, dans le protocole de mon départ, il était interdit de vendre à un concurrent.
D'accord.
Donc, on a continué à créer des emplois autour de cette expérience. Et par ailleurs, l'argent qui est sorti à ce moment-là a donné lieu à toute une série d'entreprises. Je pense que le nombre d'entrepreneurs qui se sont probablement appuyés, inspirés sur le goût, sur l'envie et sur la disponibilité financière est en dehors de tous les standards que l'on peut rencontrer.
D'accord. Donc, vous avez voulu témoigner de cette belle histoire, de cette belle aventure. C'est la raison pour laquelle vous avez publié cet ouvrage. En deux mots, le plus, le moins que vous retenez de cette expérience, ce qui est capital et ce qui est dérisoire, enfin, en tout cas, douloureux.
J'ai une manière de voir la vie qui...
Pas de façon manichéenne.
Non. et in fine, qui permet toujours, sur toute expérience, de construire quelque chose de positif. Ce que j'ai fait, et le fait d'avoir publié ce livre avec ce titre « Marquons notre temps », qui était la baseline de l'entreprise, et qui témoigne de la volonté d'être présent, de laisser une trace, d'être citoyen, témoigne de cette état d'esprit positif.
Je vous cite d'ailleurs pour conclure, voilà ce que vous dites en conclusion, « Je me suis découvert à travers les autres et j'ai découvert l'autre à travers moi. Ce fut une occasion de poursuivre l'invention de ma vie. »
C'est tout
Bonne
à fait
vie.
Ça. Point final.
Merci à vous Jean-Claude
Merci
Millet.
Beaucoup.
Je rappelle donc la parution de votre livre « Marquons notre temps » chez Publibook.
Merci beaucoup.
À vous.